dans le collimateur. Le balado de veille du Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Conversation sur l'éducation aux médias et à l'information avec Alexandre Coutan, professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM, et Gabrielle Drummond, journaliste et doctorante en communication.
Donc, je suis Alexandre Coutan, je suis professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal et je suis membre du LabCMO, qui est le laboratoire de recherche à la communication et numérique.
Mon nom, c'est Gabrielle Drummond, je suis journaliste pour Radio-Canada Acadie, je suis basée à l'Île-du-Prince-Édouard et je suis aussi doctorante en communication ici à l'UQAM.
Jean-Michel Lapointe, chargé de projet technopédagogique à l'UQAM.
Yves Mann, chargé de projet technopédagogique à l'UQAM. Mais explique-moi, Alexandre, quand on parle de EMI, on parle de quoi pour...
Donc éducation aux médias et à l'information. Toutes les démarches qui sont entreprises, qui peuvent être institutionnelles ou non, hein, parce qu'il y a aussi plein d'acteurs qui s'intéressent à l'éducation aux médias et à l'information, pour transmettre aux citoyens des habiletés pour arriver à faire avec tout l'univers informationnel auquel ils sont confrontés au quotidien.
Et toi aussi, en doctorat, je suppose, Gabrielle, tu t'intéresses à l'ensemble de la population du phénomène.
Oui, exactement. Et une chose que je trouve très intéressante par rapport à l'éducation aux médias et l'information, et d'ailleurs, ça fait partie de l'événement auquel on avait participé il n'y a pas très longtemps, c'est que oui, on offre des outils, mais en même temps aussi, on essaie d'éveiller un certain esprit critique chez les gens aussi, pour qu'ils soient en mesure d'être outillés, tout d'abord, à travers des cours ou même des ateliers de l'EMI, mais aussi que ces gens-là puissent être suffisamment critiques face à l'information. Et on parle de toutes sortes de gens, de toutes sortes de communautés en général. Et quand je parle de communautés, je ne parle pas uniquement des communautés ethniques ou linguistiques, mais je parle aussi d'une communauté d'une bibliothèque, par exemple. Des usagers d'une bibliothèque qui font aussi partie d'une certaine communauté, d'une certaine façon.
En tant que bibliothécaire, je faisais partie, disons, des gens qui s'intéressaient à l'éducation aux médias et à l'information. Mais Alexandre nous a dit qu'il y avait une diversité d'acteurs impliqués ou potentiellement intéressés par le sujet. C'est qui, finalement, les principaux acteurs qu'on pourrait identifier comme étant des personnes qui s'intéressent à l'EMI?
Disons que les plus faciles à identifier, c'est les acteurs institutionnels, malgré tout. Donc, l'école prend en charge l'éducation aux médias ou à l'information dans un certain nombre de pays, mais là, il va y avoir une très, très grande diversité dans la manière dont c'est intégré dans les cursus scolaires. Et puis après, il va y avoir tous les professionnels de l'information qui vont soit intervenir dans les écoles, soit aussi intervenir en complément. Par exemple, au Québec, ce sont beaucoup les journalistes qui s'occupent d'éducation aux médias ou à l'information. Il y a aussi beaucoup les bibliothécaires, les professeurs documentalistes. Et puis, il y a un autre acteur qui est moins visible dans la partie connu d'éducation aux médias ou à l'information, et puis c'est un des points qui nous intéressait, nous, c'est tout ce qu'on appelle l'éducation populaire. Mais c'est assez intéressant parce que c'est des approches très différentes, parce que d'un côté, il y a des gens qui sont très experts sur produire de l'information, qui vont dire voilà tout ce qu'il faut savoir faire, du coup. Et donc, c'est plutôt de la transmission de compétences. Puis de l'autre côté, dans l'éducation populaire, c'est beaucoup plus une question d'esprit critique, et de dire il faut former des citoyens à être capable de circuler dans l'espace social et donc informationnel et de se faire un avis, bien sûr, sur ce qui n'est pas institutionnel et qui n'est pas nécessairement de qualité, mais dans la perspective de l'éducation populaire, il faut aussi forger un esprit critique face aux médias, face aux discours politiques, face aux discours des enseignants, etc. Le truc que les journalistes savent peut-être peu, c'est qu'il y a beaucoup d'études des publics et que ces études des publics montrent bien que les gens ne sont pas irrationnels, qu'ils prennent en compte tout un tas d'informations rationnelles, ils prennent en compte l'information scientifique. La plupart du temps, ils ont plutôt tendance à aller chercher prioritairement les contenus journalistiques parce qu'ils font plus confiance en termes de qualité de la construction de l'information. Mais après tout ça, ben, ça va être interprété, politisé, discuté avec d'autres groupes, etc. Et puis c'est là où c'est plus difficile de dire voilà comment il faut penser, parce qu'on deviendrait presque un ministère de la vérité là, à ce moment-là. Et c'est ces nuances-là qui sont plus complexes à saisir et qui peuvent créer des tensions, parce qu'on veut dire, nous dites pas comment penser en fait. Donnez-nous de la bonne matière première pour penser, mais quand vous allez jusqu'à nous dire comment penser, là, ça marche moins bien.
Mais je pense aussi, Alex, je pourrais rajouter, et tu vas me le dire si j'ai tort ou pas, mais aussi, il y a le côté dialogue, donc l'échange, d'être à l'écoute de l'autre aussi, et pas uniquement d'arriver avec une solution clé en main, avec les bonnes façons de faire sans avoir écouté l'autre aussi. Donc, l'autre fait partie aussi de cette discussion, et ne pas se dire non, les gens n'ont aucune connaissance des bonnes façons de s'informer. Non, il faut prendre ces gens-là en compte, oui. Étudier les publics dont, comme tu avais parlé, Alex.
Ben justement, à cet égard-là, comment on étudie les gens? Étant donné que les gens s'informent, ils sont devant leur ordinateur, et ça peut être aussi, je ne sais pas, dans un contexte où ils discutent ensemble de certains sujets. Comment vous vous y prenez pour savoir qu'est-ce qu'ils font réellement?
Alors, il y a plein de manières de faire. Et moi, je suis plus convaincu par certaines. Alors, je vais peut-être parler de tout ce qui se fait et puis insister plus sur celles qui me convainquent le plus. Une méthode qu'on utilise beaucoup, c'est de faire des questionnaires. Avez-vous confiance dans tel ou tel média? Et puis de relier ça, si possible, à combien de temps vous passez sur tel support, etc. Ça, il y a un problème, c'est que souvent, on capte à un moment un état, c'est fait avec des questions qui sont un peu générales et qui du coup rendent pas bien compte de ce que c'est que la confiance. Parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes dans les enquêtes plus qualitatives qui disaient bah non, je fais pas confiance aux médias, et puis qui nous racontent tout ce qu'ils ont lu pendant la semaine dans les médias qui mettent en doute. Et en fait, le fait de consulter énormément les médias toute la semaine, c'est une preuve de confiance quelque part, dans le sens où bah, je vais quand même là-bas pour m'informer. Et puis simplement, je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'interprétation des faits qu'ils ont, etc. Et là, ça ressemble quand même plutôt à un bon citoyen là, qui s'informe beaucoup, etc. Ce qu'on peut attendre normativement dans une démocratie.
Donc souvent, pour remettre en question les médias, on va utiliser les productions médiatiques.
Oui, ils sont beaucoup consommés. Et puis ça, c'est vraiment, il y a une recherche vraiment grosse enquête qui a été faite sur une vaste population en France là récemment. La première conclusion qu'ils disent, c'est quand les gens commencent à avoir un doute, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils vont voir les médias. Ils vont voir les médias traditionnels. Et après, ils en discutent, et après, ils vont compléter avec d'autres choses. Mais encore une fois, ce rôle-là est quand même pas mal reconnu. Mais dans ce rôle, ça peut être un rôle qui est vécu de manière conflictuelle. Et encore une fois, c'est peut-être pas grave là, que les gens aillent s'informer auprès des médias en disant « c'est eux les professionnels qui savent construire l'actualité ». Maintenant, je sais que c'est une construction, je sais que chaque titre a malgré tout une ligne éditoriale, qu'il y a tout un tas d'enjeux qui peuvent eux-mêmes être imparfaits dans tout un tas de questions. Et puis que ça, la sociologie du journalisme me montre bien. Donc, quelque part, c'est plutôt sain d'avoir ce type de consommation avec un esprit critique des médias. Et justement, les enquêtes un peu larges par questionnaire permettent pas de rendre compte de la finesse de ces rapports-là. Et quand on veut approfondir, bah alors on fait des entrevues, on demande comment les gens discutent de l'actualité, où est-ce qu'ils s'informent, avec qui ils en parlent, etc., pour essayer de reconstruire un petit peu plus la circulation en fait des informations dans notre vie, dans les différents groupes avec lesquels on en discute, etc. Aujourd'hui, l'info, elle arrive beaucoup de partout sans même qu'on l'ait demandé, par des notifications. Elle est dans nos messageries, il y a un truc qui va popper, qui parle d'actualité, mais nous, on n'avait pas demandé à s'informer. Donc, ça nous informe, pourquoi pas, ça peut nous intéresser, mais on ne va jamais penser, ah ben le petit groupe que j'ai avec mes amis d'enfance sur WhatsApp, souvent, il y a de l'info d'actualité qui sort de là.
Laisse-moi jouer l'avocat du diable. On écoute ce qu'on veut bien entendre et ce qui fait notre affaire. C'est dans le fond, quand ça va dans le même sens de ce qu'on conçoit, ce qu'on veut entendre, on prête... Ben, en tout cas, je dis « on », mais je fais une généralité. On prête attention. Si ça ne fait pas notre affaire, on n'écoute pas, on ne regarde pas, on ne lit pas. Alors, il y a comme cette espèce de cercle vicieux aussi, à un moment donné. Il y a une perte de confiance aussi envers la profession journalistique. Alors, de plus en plus, on le voit dans la population, les gens font de moins en moins confiance aux journalistes, à se demander pourquoi, parce que justement, ils sont formés pour. Peut-être Gabriel là-dessus, puisque tu es journaliste, sans te mettre en cause, mais comme
si
étudiant.
Si je savais la réponse, oui, je serais riche maintenant, je pense. Je pourrais vendre même ça, des modèles tout prêts aux institutions de l'actualité de journalisme, en fait, les organisations en journalisme. Mais c'est sûr que quand on parle de crise de confiance, c'est quelque chose qui, on en parle de plus en plus. Et d'ailleurs, ma thèse de doctorat va porter là-dessus, justement, mais moi, je vais essayer de travailler, je vais essayer de trouver ces réponses-là et peut-être que je vais pouvoir revenir avec des éléments beaucoup concrets, beaucoup plus concrets à ce sujet-là. Justement, moi, je m'intéresse au public dans les maritimes, donc les communautés francophones, acadiennes, les gens en général qui sont en mesure, qui sont plus susceptibles à consommer de l'information en français dans cette région-là, ça m'intéresse. Et puis, on se demande, est-ce que ces relations de confiance-là, elles existent? Est-ce qu'elles sont toujours présentes? Et si oui, comment elles sont forgées? Comment elles sont construites dans ces milieux-là? Et je pense que ça pourrait donner des pistes, justement, de solutions pour bien comprendre ce phénomène. On parlait tout à l'heure d'esprit critique. Quand on remet en question un article produit par un journaliste, ça ne veut pas dire forcément que la personne ne fait pas confiance dans les médias en général. Donc, c'est justement dans ce sens-là ou sur ce sujet-là que je veux, sur lequel je veux travailler.
Ah, c'est intéressant.
Parce que c'est peut-être justement ce que tu soulèves. Ça permet d'aborder le point que les médias parle médiatiquement des enjeux de confiance envers les médias d'une manière qui est très peu informée sur la littérature scientifique, en fait. Et c'est beaucoup des questionnaires, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui disent pas grand-chose, qui disent « Regardez le baromètre qu'on fait tous les ans, la confiance, elle baisse, elle remonte. » On sait pas pourquoi, là. Ça baisse de 20 points, ça remonte de 30, ça baisse de 5 et tout. Et il n'y a pas d'explication derrière. C'est normal, c'est pas des questionnaires scientifiques, là. C'est des questions où ça passerait dans aucune revue scientifique, c'est mal posé. Le seul intérêt, c'est que c'est fait tous les ans. On voit des variations, on se dit qu'il doit y avoir un problème pour qu'il y ait des variations, mais arriver à comprendre réellement ce qui se passe derrière, pourquoi il y a ces variations, c'est beaucoup plus complexe. Mais il se trouve que, bonne nouvelle, il y a vraiment beaucoup de littérature sur les pratiques informationnelles et par exemple, sur ce que tu soulevais, on consomme bien ce qu'on veut, oui. Ça, c'est vraiment un consensus dans la sociologie des publics. C'est pas les médias qui nous influencent, c'est on va vers les médias qui disent des choses qui sont en cohérence avec nos valeurs, représentations du monde, etc. En revanche, la consommation d'informations, c'est pas je suis isolé face à une information, c'est elle. Non seulement je reçois beaucoup d'informations différentes, même quand je les ai pas demandées, et en plus je discute avec beaucoup de personnes qui ont pas exactement les mêmes représentations que moi. Et ça, du coup, c'est là où ça crée des représentations de ce qui est en train de se passer dans le monde, etc. Et on a trop tendance à regarder qu'est-ce que tu as consommé, comme s'il y allait avoir un effet direct. Tu as lu, tu as lu le Journal de Montréal, boum, donc tu vas penser ça. Ah, tu as lu Radio-Canada, donc tu vas penser ça. Tu as lu Le Devoir, donc tu vas penser ça. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Les personnes qui lisent que Le Devoir sont hyper au courant de ce que pensent les gens qui lisent le Journal de Montréal, etc. Et c'est toute cette discussion sociale qui n'est pas prise en compte, alors que c'est vraiment là que les représentations sociales, elles se forgent.
Oui, mais revenons à la base un peu. Dans le fond, ce que je m'aperçois, c'est que les gens ont de la misère à faire la différence entre un fait et une opinion. Et tu l'as dit tantôt, les opinions sont basées sur des émotions. Alors, les gens, par exemple, dans les hôpitaux, vont vivre des émotions. Donc, ils passeront peut-être pas leur discussion et leur... ça sera pas nécessairement constructif parce que des fois, ça va être des raccourcis intellectuels. Parfois, ça va être tous les biais possibles et impossibles qui vont y passer. Et le politique joue beaucoup là-dedans aussi, dans le sens que eux autres, ils veulent aussi être réélu d'une certaine façon, car il joue un petit peu à maquiller la situation selon les faits, en manipulant un petit peu, en faisant dire les faits, certaines choses. Donc, c'est difficile de faire ce que tu fais si déjà les gens que tu sondes n'ont pas la même référence de ce qu'est un fait, d'une opinion, et tout est mélangé, et là, on n'arrive pas à s'accorder. Et c'est ce que Greta... comment s'appelle Greta?
Thunberg,
lorsqu'elle est arrivée en voilier à New York, puis en Suède, on leur apprend très jeune à distinguer un fait d'une opinion, ainsi que les biais. Elle était une de ses réflexions, c'est... Mais les gens ne discutent pas des faits. Ils sont juste, est-ce que je suis pour le fait que l'homme cause le réchauffement de la planète ou pas? Et ça, ce sont des opinions. Ils ne se basent pas sur des faits, mais sur des idéologies politiques, souvent. Mmh. C'est difficile pour toi d'analyser tout ça en faisant en sorte que tous ces gens-là ne parlent pas le même langage, n'ont pas les mêmes référents de base, non?
Alors...
Il a pris une respiration. C'est une grosse question, celle-là.
Exactement, ouais. Et en fait, là, on aurait certes... C'est très différent contextuellement. Et tu disais, par exemple, en Suède, ça se passe pas de la même manière qu'aux États-Unis. Il se trouve qu'elle est aux États-Unis dans un endroit où, effectivement, les recherches montrent qu'il y a beaucoup de polarisation. Et c'est un endroit spécifique. Mais typiquement, nous, au Québec, on n'a pas du tout retrouvé ça. Il n'y a pas du tout cette polarisation-là. En fait, les seuls endroits où on voit la polarisation, c'est dans les titres des médias, qui rappellent que c'est polarisé partout. Et ensuite, les gens discutent sans aucune polarisation. Enfin, sans aucune. Non, c'est pas du tout sans aucune. Il y en a.
Il y a de la nuance.
Et il y en a, ouais, tout à fait. Et il y a des endroits, et puis il y a des sujets qui peuvent créer ça. Mais c'est vraiment pas le devenir naturel d'une discussion que de se polariser, etc. Et dans cette idée, mais regardez, les gens savent pas distinguer les faits d'une opinion. Il y a, à mon avis, déjà deux grosses erreurs de fond. C'est que... C'est pas si grave qu'on sépare pas les faits des opinions, parce que de toute façon, les faits n'ont pas de sens en eux-mêmes. Il faut toujours les interpréter derrière, et directement, c'est pas des trucs juste rationnels, scientifiques, etc. Non, il y a, à chaque fois qu'on se fait une, on s'informe pas pour s'informer, et on veut pas connaître une connaissance scientifique pour une connaissance scientifique, c'est pour savoir quoi en penser en société. Et ça, c'est politique, c'est culturel, c'est éthique, c'est, donc tous ces trucs-là, de toute façon, ça va revenir. Et donc déjà, encore une fois, les personnes donnent des avis. Et puis, quand la discussion est collective, d'autres personnes vont pouvoir s'opposer en disant, ben voilà, pourquoi ton avis, moi, j'adhère pas, etc. Et c'est cette construction collective qui va marcher. Et c'est le deuxième point, c'est que on est toujours à dire, faut que les gens soient compétents pour savoir distinguer ça, ça, ça. Mais à force, là, surtout quand on voit à quel point il y a des stratégies manipulatoires, pas du côté des citoyens, plutôt du côté des entreprises, de la manière dont on nous apprend à faire de la communication politique, etc. Faudrait vraiment être très, très compétent pour arriver à savoir distinguer tout ça. En revanche, l'intelligence collective qui est permise parce qu'on discute ensemble, ça marche bien. Et c'est ça qu'on a beaucoup repéré. C'est-à-dire, la personne, elle arrive en disant, voilà ce que je pense de tel sujet, et puis c'est parce que un tel l'a dit. Et en face, il y a une personne qui dit, mais attends, là, t'es juste en train de te baser sur l'opinion personnelle d'un chroniqueur. Et la personne répond, ah oui, t'as raison, ah, et alors, et hop, on repart sur une discussion, cette fois-ci, on se dit, mais c'est quoi exactement le problème d'ailleurs, etc. Et puis là, il y a une construction beaucoup plus élaborée de la représentation de ce qui est en train de se passer, qui est beaucoup plus riche. Et la bonne nouvelle, quelque part, c'est que quand on saisit ça, les recherches qui portent sur ces manières de créer des discussions collectives, elles sont quand même vraiment encourageantes, parce que ça marche, quoi, en fait. Hein. C'est un peu de travail de design des espaces, et ça marche. Et effectivement, ça rend, du coup, alors c'est peut-être moins pratique comme représentation, c'est pas les gens sont devenus fous ou crédules ou incapables de se comprendre, etc. Mais c'est, ah ben nos institutions, elles jouent pas trop le jeu d'essayer de créer des gros espaces de construction collective. Mais c'est vrai que Condorcet le disait, hein, un bon citoyen, c'est un citoyen qui est compliqué à gouverner, quoi, parce qu'il est critique. Ouais,
Oui, mais moi, je vais répéter un peu ce que Alex vient de le dire, mais je voulais juste apporter un exemple, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais fait justement vraiment une analyse exploratoire. Je n'ai pas parlé à des gens, mais j'avais analysé des commentaires sur Facebook qui ont été laissés sur la page Facebook de Radio-Canada Acadie. Pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, je suis journaliste, reporter et je travaille pour Radio-Canada Acadie. Et moi, j'avais analysé justement les trois premiers mois des publications qui ont été faites sur cette page Facebook aux trois premiers mois de la pandémie de la COVID-19. Justement, à savoir, pour voir justement comment ça a évolué la discussion autour des sujets, la plupart du temps autour des sujets de la pandémie. Et une chose que j'avais observée justement dans cette mini-étude-là, c'était justement la façon comment la discussion a beaucoup évolué au fil du temps parce que les gens, ils argumentaient plus quand ils voulaient parler, par exemple, des changements dans les restrictions de voyage. C'était un sujet quand même qui a fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions, surtout partout, mais en Acadie aussi, parce qu'on avait la bulle atlantique, on avait tous ces sentiments d'appartenance à une région et tout. On vivait entre nous durant cette pandémie-là. Bon, bref. Moi, j'avais justement observé ça, qu'à travers cette intelligence collective dont tu parlais, Alex, justement, on voyait que la qualité de la discussion s'améliorait au fil du temps, parce que les gens étaient peut-être plus au fait de ce que c'était la pandémie. On apprenait quand même beaucoup de choses. Il y avait au départ aussi un manque de compréhension de la part des gens, comme c'était naturel, parce que c'était la première fois qu'on voyait une pandémie avec une telle ampleur. Et justement, on voyait que les gens argumentaient, justifiaient, montraient, et ils se parlaient entre eux pour dire « Ah, vous venez de donner cette opinion-là, vous n'êtes pas d'accord avec les changements des restrictions de voyage, mais il faut comprendre ça, il faut comprendre ça. » Et des gens qui apportaient même des références pour expliquer leur point de vue. Donc, c'était quelque chose qui avait été construite au fil du temps. Donc, peut-être que dans ces espaces-là, surtout des espaces en ligne où on peut observer peut-être avec une certaine facilité, plus que sur le terrain, dans la vie de tous les jours, hors ligne, ça serait un peu plus compliqué de retracer tous les endroits où ces gens vont se promener pour essayer de s'informer. Mais on voit aussi que ce facteur de l'intelligence collective, il est là, il est présent. Et ça fonctionne et les gens sont prêts aussi à mieux s'informer, à argumenter leur point de vue.
Mais est-ce que le portrait, disons, le général, dans la mesure où il est exact qu'on vit une crise de confiance par rapport aux médias ou aux autorités informationnelles, est-ce que ce constat-là, si c'en est un, est-ce qu'il s'exprime de la même manière dans les régions comme l'Acadie ou dans les plus petits milieux là, je sais pas quoi, ce serait quoi le mot pour les décrire ou est-ce que ça se vit autrement?
Oui, en fait, c'est ça que je veux découvrir dans ma thèse, justement, de savoir comment cette question elle est travaillée, comment on établit ici, on établit ces relations de confiance dans ces milieux minoritaires linguistiques. Donc, on sait que les médias francophones dans ces milieux-là a toujours eu un rôle très important pour assurer leur identité aussi en tant que communauté, l'existence du français à l'extérieur du Québec. Donc, il y a aussi des liens qui sont très, très, très attachés à leur origine, à leurs origines aussi, à leur histoire, aux enjeux qui les préoccupent le plus, comme l'existence du français, même la survie du français dans ces milieux minoritaires-là, le vieillissement de la population, surtout dans des régions rurales. Donc, c'est sûr que ça va se manifester d'une façon un peu différente qu'ailleurs, parce qu'on a quand même des composantes assez particulières dans cette région. À mon avis.
Je vous remercie énormément. Merci d'avoir contribué. Merci, Alexandre, pour ta recherche à l'UQAM que tu effectues de cette réflexion-là. Bien, merci d'être doctorante avec nous aussi, Gabrielle. C'était très généreux de votre part. Et puis, Jean-Michel, on poursuit notre réflexion.
Tout à fait. Et je te remercie aussi, Yves.
Merci, Jean-Michel.
Ont participé à cette conversation M. Alexandre Coutan, professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM, et Gabrielle Drummond, journaliste pour Radio-Canada et doctorante en communication. Jean-Michel Lapointe et Yves Mon, chargés de projet pédago numérique au Carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'UQAM. Musique par Awesome Music. Montage par Karl Aksinchak. Réalisation de Yves Mon. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.